Chapitre 14. Parlement mondial des religions, Melbourne, Australie. Le frère Mozavi faisait glisser ses doigts sur l'écran tactile encastré dans la tablette individuelle d'acajou. Impressionné. Dans son dispensaire d'Oruro en Bolivie, au cœur des Andes, le seul ordinateur valide venait de fêter ses 20 ans. Les pasteurs ménonites, en Bolivie comme ailleurs, ne roulaient pas sur l'or. Tout avait été très vite pour lui. Le représentant titulaire des Ménonites au Parlement mondial des religions, un pasteur suisse, s'était effondré une semaine auparavant sur un trottoir de Zurich, terrassé par un infarctus. Son suppléant au Belize avait argué d'un agenda de ministre pour refuser de se rendre en Australie au pied levé. Mozavi avait reçu un coup de téléphone de La Paz. Un an auparavant, il s'était fait remarquer par ses écrits engagés. Aujourd'hui, on lui proposait de partir pour Melbourne. Illico. Lui qui n'avait jamais vu d'étendue d'eau plus vaste que le lac Uru-Uru s'était retrouvé à traverser l'océan Indien à bord d'un Boeing 737. Le frère Mozavi observa son reflet dans l'écran sombre. Tout en lui contrastait avec la majorité des autres représentants cléricaux. Son allure de séminariste trentenaire et son teint hâlé d'indigène andin, éclairé de deux yeux noirs derrière des lunettes d'écaille posées sur un nez en bec de condor. S'il était novice, il n'était pas naïf. Il mesurait son pouvoir au sein de cette assemblée. Les Ménonites ne regroupaient qu'à peine plus d'un million de fidèles dans le monde, mais ils possédaient la particularité d'être dispersés sur les 5 continents. Partout minoritaires, ils ne disposaient donc d'aucun soutien politique national, mais n'endossaient du coup la responsabilité d'aucun conflit. Est-ce pour cela qu'on l'avait tant choyé ? Hôtel au luxe disproportionné, Mercedes de fonction et poignée de main appuyée du président Viorel-Unor. Oui, il se sentait choyé. Et mis à l'écart. Comme un bleu, un gamin non encore initié. Il n'avait pas été convié à ces réunions en catimini réservées aux grandes religions monothéistes. Il avait ressenti à chaque instant des complicités, des apartés discrets, des accords tacites dont il se sentait étranger. Comme si les séances publiques du Parlement n'étaient que la représentation d'une pièce écrite dans les couloirs. Sans parler de ce rapport, The Remote Sensing Ararat Anomaly 2014. La fonte des glaces de l'Ararat était-elle la principale préoccupation des religions d'un monde dont toutes les coutures sociales et culturelles craquaient ? Étrange. Irréel, pour ainsi dire. Le frère Mozavi fit glisser de l'index l'icône qui commandait la traduction simultanée en espagnol. En tout cas, si le Parlement souhaitait un figurant docile, il n'avait pas invité la bonne personne. La parole calme de Viorel-Unor se répandit dans l'amphithéâtre, avec une sonorité d'une qualité digne d'un ténor de l'opéra de Sydney.
« Messieurs, vous pouvez tous consulter les dossiers. Nous allons aller à l'essentiel. Je suppose que chacun d'entre vous est conscient des enjeux. Nous avons commandé au meilleur laboratoire de télédétection d'Europe, le Digital Image Remote Sensing de Toulouse, un rapport sur l'englacement du mont Ararat. Je ne reviens pas sur l'histoire de l'Arche de Noé, je suppose que... »
Une main se leva. Tous se retournèrent vers l'impertinent.
« Je vous prie de m'excuser, »
fit une voix douce mais assurée.
« Je suis le pasteur Mozavi de Bolivie. Je fais partie des ecclésiastiques qui siègent pour la première fois. Pour ma part, j'aimerais au contraire connaître tous les détails sur l'histoire de l'Arche. »
Le cardinal et le grand rabbin le toisèrent. Un imam soupira derrière le pasteur bolivien. L'adventiste, quelques rangs plus haut, sembla agacé. À l'inverse, le visage émacié de Viorel-Unor ne sourcilla pas. À peine un pincement de lèvres dissimulé sous sa barbe.
Bien entendu, frère Mozavi. Il est capital que chacun d'entre nous possède le même niveau de connaissance. C'est l'essence même de notre Parlement. Notre institution, dans le cadre de ses missions de réflexion sur les liens entre progrès de la science et exégèse, s'est penchée en détail sur l'histoire de l'Arche. Selon les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, Noé était un des premiers prophètes bibliques. Dieu, pour punir les hommes, décida du déluge et...
Le pasteur ménonite éclata d'un rire franc en levant à nouveau la main.
Je suis confus, président. Ma question ne portait pas sur l'histoire de Noé. Comme tous les occupants de cet amphithéâtre, j'ai suivi de longues études de théologie. Je connais la Bible, rassurez-vous. Le déluge, la pluie qui tombe 40 jours, la colombe qui rapporte dans son bec une branche d'olivier, l'arc-en-ciel qui salue le retour sur terre et scelle l'alliance entre Dieu et les hommes, toute la symbolique. C'est l'histoire du mont Ararat que je souhaiterais connaître. celle des chercheurs d'arches.
Dans l'amphithéâtre, le représentant adventiste avait tiqué au terme de symbolique. Viorel esquissa un sourire et intervint avant lui.
« Je comprends, frère Mozavi. Votre question est légitime. Il est important de rappeler l'histoire de la conquête du mont Ararat avant d'aborder les conclusions du rapport RS2A. Comme nous le savons tous, l'arche serait échouée sur le mont Ararat, même si seule la Bible mentionne explicitement le nom de cette montagne. Le Coran évoquant le mont Al-Judi, qui signifie simplement « hauteur ».
Sur les gradins, l'imam acquiesça.
« Mais intéressons-nous à l'Ararat. Je passe rapidement sur le récit du moine Jacob, redescendu du mont en portant une poutre d'arche offerte par un ange. Dans les circonstances présentes,
tous les regards se dirigèrent vers le représentant du patriarcat d'Arménie.
Je ne pense pas nécessaire de rappeler ici l'effroyable massacre commis il y a quelques semaines dans la cathédrale arménienne d'Ekmiadzin,
reprit Unor d'une voix blanche.
Un massacre qui nous rappelle, s'il en était besoin, l'urgence des décisions que nous avons à prendre.
Il toussa, comme s'il cherchait jusqu'où il devait pousser son argumentation. Il joignit ses doigts et continua sans cesser de fixer le frère Mozavi.
Le récit qui va suivre va vous sembler étrange, mon frère, mais les détails que je vais vous donner sont rigoureusement exacts.
Sans consulter la moindre note, Viorel Unor se lança dans l'histoire de la conquête de l'Ararat. L'Estonien Friedrich Parot avait été le premier à le gravir en 1839, accompagné d'une équipe de scientifiques. À sa suite, les expéditions sur le mont se multiplièrent, mais l'Anglais James Bruce fut le premier à mentionner la découverte d'une poutre de l'arche dans les glaces. Son exposé devant la Société de géographie fut pris pour une farce ridicule. En 1882, la dernière éruption volcanique du mont, doublée d'un tremblement de terre, ensevelit les flancs nord-ouest de l'Ararat. Le village d'Aora et le monastère Saint-Jacob, seules habitations permanentes sur le massif, furent détruits. L'armée turque intervint dans les jours qui suivirent sur les ruines. Plusieurs journaux occidentaux rapportèrent alors les propos d'ouvriers turcs et du glaciologue britannique Gascoigne qui supervisait les secours, jurant avoir découvert un vaisseau pris dans les glaces. Aucune preuve ne fut apportée par les témoins, à l'exception de leur bonne foi, et le New York Times tourna en dérision ces témoignages. L'arche continua cependant à faire parler d'elle. En 1883, l'ambassadeur apostolique malabar, Jean-Joseph Nouri, prétendit lui aussi avoir découvert un assemblage de poutres rouges sur l'Ararat. Il s'adressa alors à une jeune institution. Le métropolite modifia brusquement le ton de son exposé. Les représentants, qui pour la plupart écoutaient distraitement une histoire qu'ils connaissaient déjà, levèrent les yeux.
« Il va s'adresser à nous !» martela Unor. « Au Parlement mondial des religions !»
À Chicago, en 1893.
Il lève des fonds et propose de monter une expédition scientifique. L'argent, heureusement, ne suffit pas.
Un sourire énigmatique s'afficha sur le visage du métropolite.
Les autorités turques font savoir qu'elles s'opposeront à toute exportation de reliques trouvées sur l'Ararat. Quelques mois plus tard, Jean-Joseph Nouri est agressé aux États-Unis. Il n'y perdra pas la vie, mais il laissera sa santé mentale. Le prélat terminera son existence dans un asile.
Unor prit le temps d'une respiration avant de continuer, comme pour laisser le parfum de malédiction se diffuser dans l'hémicycle.
Les autorités turques ne peuvent pourtant pas s'opposer à toutes les incursions vers l'Ararat, notamment aux expéditions aériennes. En 1916, en mission de reconnaissance militaire, un pilote russe, le fameux Vladimir Roskovitsky, survole l'Ararat et déclare avoir vu un gigantesque vaisseau pris dans un lac gelé, au-dessus de la gorge d'Aora. Son supérieur, le capitaine Kourbatov, survole lui aussi la zone et confirme ses dires. Leur témoignage, cette fois, est pris au sérieux. Le tsar Nicolas II délègue sur place une importante expédition militaire et scientifique. Des témoignages locaux certifient que les Russes gravissent l'Ararat, retrouvent le lac gelé, multiplient les notes et les photographies. Mais les hasards de l'histoire sont parfois stupéfiants.
Une ironie discrète se dessina sur les lèvres du métropolite.
Quelques semaines plus tard, la révolution russe éclate. Les bolcheviks prennent le pouvoir et toutes les traces de la mission Ararat déléguée par le tsar disparaissent dans la tourmente. Depuis un siècle, tous les chercheurs d'arches ont tenté de percer le mystère du rapport Roskovitsky. Existe-t-il seulement ? A-t-il été confisqué par les soviétiques ? perdu, oublié, archivé, dissimulé.
L'un des chercheurs d'arche les plus tenaces, Eryl Cummings, obtiendra des années plus tard plusieurs témoignages convergents d'officiers russes et de paysans kurdes, dont celui de Jacob Ratke, âgé de 62 ans, qui confirma que son régiment s'est approché d'un vaisseau de bois émergeant d'un lac, sans toutefois parvenir à l'atteindre.
Unor se servit un verre d'eau qu'il but à petites gorgées. Il observa le frère Mozavi. Son cerveau cherchait à évaluer le danger que représentait ce pasteur un peu trop curieux, un peu trop malin, un peu trop bavard. Par réflexe, le métropolite pressa ses doigts sur la croix autour de son cou. Sa peau conserva quelques instants les marques du bois sculpté, un infime moment, pourtant suffisant pour distiller en lui le courage de poursuivre. Lui seul connaissait la force de cette croix, la puissance de feu qu'elle pourrait déclencher le temps venu. Une foudre tombée du ciel qui s'abattrait sur ceux qui s'approcheraient trop près de la vérité. L'anomalie d'Ararat. Viorel Unor essuya les gouttelettes qui perlaient sur sa barbe et poursuivit.
Année après année, les témoignages se multiplient, convergents. Du bois dans la glace. Mais, frère Mozavi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Comme vous allez le constater, tous ceux qui s'approchent de l'arche semblent frappés d'une étrange malédiction.